Comme nous l'avons déjà dit, nous pouvons nous réjouir de la grâce et du privilège que Dieu se soit ainsi approché de nous et nous ait révélé sa parole et sa volonté. Oui, en réalité, tout son dessein, comme nous l'avons déjà dit, à plusieurs reprises, comme cela n'avait jamais été le cas auparavant sur terre. Nous pouvons l'affirmer en toute confiance, car il en est ainsi. Les prophètes et les apôtres ont écrit, mais bien des choses appartenaient encore à l'avenir, à leur époque. Aujourd'hui, nous pouvons jeter un regard rétrospectif et dire, les Écritures se sont accomplies de multiples façons sous nos yeux, et ce qui reste à arriver se réalisera certainement lorsque l'heure sera venue. J'ai à cœur ce week-end de simplement animer des études bibliques. Et vous pouvez d'ores et déjà sortir vos Bibles et nous passerons d'un passage à l'autre. Il est en effet très très important que nous soyons solidement ancrés dans la parole de Dieu, afin que rien ni personne ne puisse nous détourner du chemin sur lequel Dieu nous a placés, ni nous éloigner de la pure doctrine, du pur enseignement biblique pour nous diriger vers un endroit où nous n'avons pas notre place. Je voudrais lire quelques versets du chapitre 63 du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 63, à partir du verset 15. Ésaïe 63, verset 15. Regarde du haut des cieux et contemple depuis ta demeure sainte et majestueuse. Où sont ta ferveur et ta puissance, l'ardeur de ton cœur et ta miséricorde? Ne te retiens pas. Verset 16, car tu es notre Père. Abraham ne sait rien de nous et Israël ne nous connaît pas. Toi, Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur, est ton nom depuis toujours. Verset 17. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu fait dévier de tes voies et as-tu endurci notre cœur au point qu'il ne te craint plus? Reviens. Pour l'amour de tes serviteurs, à cause de tes serviteurs, pour l'amour, à cause des tribus, pour l'amour des tribus qui sont ton héritage. Voici maintenant le verset 18. À peine depuis peu de temps, le peuple que tu as sanctifié jouissait-il de son héritage que nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire? Verset 19, nous avons subi le même sort que ceux sur lesquels tu n'as pas régné depuis les temps anciens et sur lesquels ton nom n'a jamais été invoqué. Lorsque nous lisons les psaumes et parfois aussi les prophètes, nous y trouvons une multitude de pensées exprimées. Des situations et des événements nous sont présentés. Et les hommes de Dieu ont toujours eu à cœur la cause de Dieu, l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'a pris à la légère les épreuves ou les périodes de sécheresse, mais tous aspiraient de tout leur cœur à la visitation miséricordieuse de Dieu afin que le bien soit fait à ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Verset 18. Ce n'est que pendant un court laps de temps que le peuple qui t'est consacré a joui de son héritage. Si nous considérons l'Église du Nouveau Testament dans le christianisme primitif, Nous pouvons en dire autant. Ce n'est que pendant une brève période, une brève période, que le peuple entièrement dévoué au Seigneur, entièrement consacré, a fait l'expérience des bénédictions surnaturelles de Dieu en son sein. Un enseignement pur, une action pure du Saint-Esprit, des dons purs, personne n'a rien fait de son propre chef, c'est l'Esprit de Dieu qui a tout opéré, accompli et agi, puis vint, comme nous le savons tous, une époque qui n'était plus comme au commencement. Mais nous avons désormais la promesse dans la parole de Dieu que tout sera restauré, rétabli et ramené en son état originel. Et c'est en fait aussi le message de la fin des temps pour appeler l'Église épouse à sortir, la purifier dans le bain d'eau de la parole, lui donner l'orientation conforme aux Écritures, afin qu'elle sorte de toute confusion et soit ainsi la propriété du Seigneur. Comme je l'ai dit, j'aimerais partager cette méditation sur la parole avec vous aujourd'hui et si Dieu le veut demain matin également. Commençons par 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Et je tiens d'ores et déjà à dire ceci. Lorsque nous évoquons de temps à autre le frère Branham en ce lieu, ce n'est pas pour le présenter comme un homme particulièrement grand. Il n'y avait pas eu du tout. Il n'y avait pas du tout de grands hommes. Il n'y avait que le grand Dieu qui se servait, qui utilisait ses serviteurs et de ses prophètes qu'il pouvait utiliser comme instrument. J'ai lu aujourd'hui encore le passage concernant Élie qui, après sa grande victoire sur le mont Carmel, a dit dans 1 Roi 19, verset 4, « Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que ne l'étaient mes pères. » Et Jacques voyait certainement les choses de la même manière et écrit au chapitre 5, verset 17, que Élie était un homme comme nous, un grand prophète, un homme de Dieu comblé de grâce. Un homme comme toi et moi. Bien sûr, Dieu a eu des instruments et il en a encore aujourd'hui. Moïse et Élie ont d'ailleurs pu descendre sur le mont de la transfiguration et parler avec le Seigneur. C'étaient des hommes comblés de la grâce du Seigneur, mais ils n'étaient pas grands en eux-mêmes. C'est le grand Dieu qui a pu se glorifier à travers eux. Et quand nous considérons ainsi le frère Branham, en particulier ceux qui l'ont connu, un homme humble, simple, mais la puissance de Dieu agissait puissamment à travers lui. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 5, il est écrit ce qui suit, peut-être au verset 4 et 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4 et 5. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Et puis vient la justification, la raison, au verset 5, car votre foi ne devait pas reposer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La proclamation de la parole s'accompagne de la puissance de Dieu qui se révèle et se manifeste à tous ceux qui reçoivent, accueillent en eux la parole proclamée et y croient de tout leur cœur. Nous pouvons aujourd'hui expérimenter Dieu, faire l'expérience de Dieu En ce lieu, nous pouvons aujourd'hui ressentir, vivre la puissance surnaturelle de Dieu à l'œuvre parmi nous. Aujourd'hui, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 18, se trouve cette parole que nous connaissons tous. Verset 18, 1 Corinthiens 1. « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. » Ce ne sont pas seulement des paroles qui sont proclamées, mais les paroles proclamées, la parole de la croix libère en elle-même la puissance de Dieu qui s'est révélée par la rédemption, par le pardon, par la libération, par la délivrance, partout où l'évangile de Jésus-Christ est proclamé. Ce qu'il a accompli et acquis pour nous à Golgotha doit s'accomplir en nous qui l'écoutons. Si nous proclamons Jésus-Christ le crucifié, alors lui qui sur la croix est devenu une malédiction pour nous, doit nous faire bénéficier de toute la bénédiction de Dieu, car sur la croix, la malédiction a été transformée en bénédiction. La malédiction nous a été ôtée et la bénédiction de Dieu nous a été donnée par grâce. Nous croyons cela car il est ainsi écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 1 et 2, il est écrit, verset 1, que chacun nous considère comme serviteur du Christ et intendant des mystères de Dieu. Verset 2, car dans ces conditions, on exige toutefois des intendants qu'il se montre fidèle. Ce soir, nous allons établir une comparaison entre Amos, chapitre 3, verset 7, et le texte que nous venons de lire. Lisons maintenant Amos. Amos, chapitre 3, verset 7. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. La révélation de la parole de Dieu s'opère par le ministère prophétique. Mais ce qui est révélé, ce qui est ensuite administré, enseigné, transmis, vous comprenez cela? Je vais relire ce verset encore une fois. Que chacun nous considère comme serviteur du Christ et administrateur des mystères de Dieu. Je n'aurais pas pu administrer un ministère de Dieu si Dieu n'avait pas fait proclamer ces mystères par des bouches mandatées. Comprenez-vous cela? Tout le monde n'est pas prophète. La parole n'est pas révélée à tout le monde. Mais la parole est révélée dans le but d'être ensuite transmise plus tard telle qu'elle a été proclamée. Donc, verset 1, 1 Corinthiens 4, que chacun nous considère comme serviteur du Christ et administrateur des mystères de Dieu. Si nous devions énumérer maintenant les mystères, depuis la chute de l'homme jusqu'à la révélation, jusqu'à l'Apocalypse, les mystères qui sont restés cachés au fil des siècles et que Dieu nous a révélés par grâce en cette génération, la liste serait longue, n'est-ce pas? Dieu a sa parole. Il a révélé les mystères de sa parole. Il nous appartient désormais, comme il est écrit ici au verset 2 de 1 Corinthiens 4. Dans ces conditions, on exige toutefois des administrateurs qu'ils se montrent fidèles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 9, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Quand une entreprise vient ici et intervient sur le chantier, j'en ai entendu parler ces derniers mois, les uns demandent aux autres « Combien avez-vous d'employés ?» Il est dit ici, au verset 9, « Car nous sommes les collaborateurs de Dieu. » Donc, Dieu, j'ai failli dire, a lui aussi une entreprise. Dieu a une église. L'église a des tâches qu'elle a acceptées et qu'elle doit accomplir. Et s'il est écrit, verset 9, « Car nous sommes les collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, alors nous avons reçu de Dieu une activité, un mandat, une tâche pour l'Église. Et nous devons simplement accomplir cette tâche avec fidélité. Passons à quelques mystères que Paul, puis d'autres hommes de Dieu mentionnent. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous révèle un mystère. Nous connaissons ce texte. Voici, je vous révèle un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère est une chose, un événement qui n'est pas connu du grand public. Il est encore secret, mais déjà révélé, annoncé. Et c'est bien Paul qui a pu dire que le mystère du Christ lui avait été révélé. Le mystère du Christ avec l'Église. Le mystère du Christ avec l'Église lui avait été révélé. Éphésiens 3, verset 3. C'est ici qu'a été révélé à cet homme de Dieu ce qui se passera à la fin du temps de grâce, à savoir en lien avec le retour du Seigneur, puis avec l'enlèvement. Il le dit ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 51. C'est pourquoi il est écrit au verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. » Remarquez-vous que Dieu nous a confié des mystères. Allez aujourd'hui dans les communautés religieuses et les communautés religieuses libres et interrogez-les sur ce test, sur de tels passages bibliques et vous vous rendrez compte, vous vous rendrez vite compte qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ni de clarté parmi les hommes. Cependant, ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole, même s'il s'agit de mystère, n'est plus un mystère, mais nous a été donné de sorte que nous n'avons plus besoin de nous interroger, mais que nous pouvons savoir ce que Dieu a prévu pour nous dans son plan éternel de salut. Mais j'aime tout simplement cela. Verset 51, voici, je vous révèle un mystère. Une question. Quelqu'un avant lui a-t-il déjà pu l'exposer et le présenter ainsi? Dieu a établi cet apôtre pour révéler cela, pour le mettre en évidence, pour le mettre en lumière, afin de le transmettre à l'Église comme consolation et enseignement, comme guide jusqu'à la fin. Nous profitons bien sûr maintenant, par grâce, de tous ces mystères. Nous en examinerons d'ailleurs encore quelques-uns Le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens est un texte tout à fait particulier. On y trouve des enseignements sur la relation entre l'homme et la femme et entre la femme et l'homme, sur le mariage, plusieurs choses y sont écrites, sur le couple, sur le foyer, car nous sommes les membres de son corps. C'est ce qui est écrit ici au verset 30, Éphésiens 5, verset 30. Car nous sommes les membres de son corps, sa chair, chair de sa chair et eau de ses eaux. Je vais laisser de côté pour l'instant le passage qui accompagne la cérémonie de mariage et lire le verset 32 directement. Il y a là un grand mystère. Je l'applique au Christ et à l'Église. Si nous demandions maintenant en quoi consiste ce grand mystère, il ne s'agit pas seulement d'un mystère, mais d'un grand mystère. Et Paul dit, au verset 32, je l'applique au Christ et à l'Église. Nous voyons que Dieu, par la révélation de l'Esprit, guide, conduit l'Église et lui a montré par grâce la parole juste au moment opportun, ainsi que les liens et les relations, les contextes appropriés. Bien sûr, toujours par la bouche de ceux qui ont été appelés, toujours par ceux qui ne voulaient pas exposer leurs propres opinions et leurs propres enseignements, mais qui, en vertu d'un appel divin, attendaient eux-mêmes la révélation afin de pouvoir ensuite la transmettre. Je l'ai probablement déjà dit ici, un homme sympathique, un citoyen américain, a prononcé un sermon sur les sept tonnerres. Je l'ai chez moi dans mon bureau. Il dure près de 2 heures. Et quand il a eu fini, il a dit, je vous ai certes dit tout cela, mais je ne peux pas vous dire si c'est vraiment ainsi. Et oui, je me suis dit en moi-même, près de 2 heures se sont écoulées et il a proclamé ces choses avec une grande puissance. Puis, tout à la fin, il dit, je vous ai certes dit tout cela, mais je ne sais pas moi-même si c'est vrai. Cela ne doit pas se passer ainsi. La parole de Dieu n'est pas oui et non, mais oui et amen. C'est pourquoi nous devons toujours veiller à ce que les choses qui sont proclamées restent incontestables, inattaquables, afin que personne ne puisse venir dire « il faut apporter une correction ici ». Quelqu'un dira alors, « Mon cher, tu es bien sûr de toi. » Pas du tout, justement. Je ne suis convaincu que de Dieu, de la parole de Dieu et de la direction absolue du Saint-Esprit. Nous serions bien des insensés si nous comptions sur nous-mêmes. Nous avons, tout comme d'autres, constaté depuis longtemps à quel point nous sommes faillibles. Mais Dieu est infaillible et sa parole est infaillible. Et si nous avons été établis comme administrateurs, comme collaborateurs des mystères de Dieu qui ont été révélés, donc comme collaborateurs de Dieu, dans les mystères de Dieu qui ont été révélés, alors nous ne dépassons pas les limites, mais nous restons dans les limites de la parole de Dieu afin d'être toujours sûr que ce qui est présenté puisse tenir, subsister devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, je viens de rentrer d'un voyage de près de 3 semaines en Afrique, à travers 5 pays africains, environ 6 000 ou 7 000 ou 8 000 personnes ont entendu la parole de Dieu. C'était très très bien, c'était très très beau. Mais à maintes reprises, j'ai rencontré des personnes pour lesquelles des corrections s'imposaient. Et la joie des frères qui ont accueilli la parole et accepté ses corrections étaient vraiment immenses. Et nous croyons que tous ceux qui sont de Dieu se corrigeront et se laisseront corriger par la parole de Dieu. La parole nous convaincra et l'esprit nous réprimandera afin que les choses soient exactement telles qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 9, il est écrit: il nous a en effet fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ainsi, la volonté de Dieu n'est plus restée cachée à l'humanité, mais elle a été révélée. Et tous ceux qui sont prêts à accomplir la volonté de Dieu s'aligneront sur la parole, se laisseront corriger par la parole et la prendront comme référence pour la foi, l'enseignement et la vie. Or, en ce qui concerne les mystères, il y a cette parole merveilleuse. Je vais faire vite. Il y a cette parole merveilleuse dans Matthieu chapitre 13 que notre Seigneur a prononcée autrefois. Je lis les versets 10 et 11. Matthieu 13, versets 10 et 11. Verset 10. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent pourquoi leur parles-tu en parabole. Il répondit, verset 11, « Il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est pas donné. » Voyez, ce n'est qu'à celui qui vient véritablement au Seigneur et qui le suit que cela sera révélé. Il ne restera pas dans les ténèbres. Car ainsi il est écrit dans l'évangile selon Jean. Notre Seigneur a dit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si quelqu'un demeure dans les ténèbres, cela témoigne qu'il ne suit pas Jésus. Comment quelqu'un pourrait-il suivre le Seigneur et rester ensuite dans la confusion, dans l'incertitude, dans les ténèbres? C'est impossible. Le chemin de notre Seigneur est un chemin de lumière, un chemin de vérité, un chemin droit, un chemin conforme à la parole de Dieu. Nous poursuivons notre lecture dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Verset 2. Que leur cœur soit ainsi encouragé, après s'être fermement unis dans l'amour, et qu'ils soient introduits dans toute la richesse d'une pleine compréhension, pour parvenir à la connaissance du mystère de Dieu. Verset 3. Ce mystère, c'est le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les lecteurs et auditeurs attentifs auront certainement remarqué qu'il n'est pas question ici de mystère au pluriel, mais du mystère de Dieu au singulier. Et la réponse nous est donnée aussitôt. Ce mystère, verset 3, c'est le Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ainsi, lorsqu'il est écrit dans Apocalypse 10 que dans les jours, je vais vous le lire. Je vais vous le lire tout de suite afin que tout le monde sache que là aussi, c'est écrit au singulier. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais au jour où retentira la voix du septième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera alors accompli, tel qu'il l'a fidèlement annoncé à ses serviteurs, les prophètes, comme un joyeux message. Donc, là aussi, au singulier, il y a les nombreux mystères du royaume de Dieu, de la parole, et puis il y a le seul mystère de Dieu en Christ. La révélation de Dieu lui-même en Jésus-Christ notre Seigneur, afin de faire des enfants des hommes, des enfants de Dieu, de se réconcilier avec l'humanité séparée de Dieu, d'abolir la barrière, le mur de séparation et d'établir la paix entre Dieu et l'humanité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ainsi, nous sommes reconnaissants envers Dieu de pouvoir, d'une part, discerner les nombreux mystères. Nous comprenons ce qu'ils signifient. Ils ont été confiés à l'Église. D'autre part, il faut dire jusqu'à ce jour, à moins que les mystères révélés ne soient également révélés aux enfants de Dieu, sinon ils ne voient pas non plus ce qui a été révélé. Je voudrais lire à ce sujet deux ou trois passages de l'Apocalypse, plus précisément le chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, tout le monde sait bien de quoi il s'agit ici. Cela s'intitule Apocalypse de Jésus-Christ. Nous nous intéressons principalement au verset 20. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, ainsi que des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Une question. Si ce passage est écrit ainsi, verset 20, quant au mystère des sept étoiles, écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. Je vais le relire. Verset 20. Quant au mystère des sept étoiles. Auparavant, sept églises sont mentionnées auxquelles doit être envoyé ce que Dieu allait révéler. Elles sont citées nommément, on peut tout lire à ce sujet, notamment dans le verset 11, oui, tout est dans le verset 11, qui m'a dit, ce que tu vas voir, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Nous arrivons ici à un point tout à fait particulier et notamment à un point important que je voudrais souligner. Si à l'époque, comme aujourd'hui, il n'avait été question que de sept assemblées locales avec sept responsables locaux, en quoi aurait consisté ce grand mystère? Alors tout le monde le saurait dans l'assemblée d'Éphèse, tel ou tel frère est justement le responsable, comme ici le frère Rousse dans l'assemblée de Krefeld et d'autres ailleurs. Tout le monde le saurait. Il n'y a là aucun grand mystère quant à savoir qui est le responsable d'une assemblée locale. Voyez-vous? Nous sommes ici face au mystère de la prophétie prospective à travers laquelle l'Église néo-testamentaire va passer, l'Église du Nouveau Testament va passer, à savoir à travers ces sept périodes. Et cela, frère Branham l'a reçu en révélation d'une manière si merveilleuse, directement du Seigneur. Je ne sais pas si vous tous qui avez lu le livre ou les brochures individuelles sur les sept lettres l'avez remarqué, le frère Branham a en effet dessiné sept lunes. Je les appellerai ainsi. Et a ensuite divisé ce cercle en noir et blanc pour indiquer la proportion de lumière et de ténèbres qui pouvaient régner à un moment donné ou à une époque donnée, jusqu'à ce que la lumière soit presque entièrement éteinte. Et nous lisons en effet dans le dernier âge de l'Église, que le Seigneur se tient dehors devant la porte et frappe, et que seul celui qui entend sa voix, je l'ai dit ici récemment, cela n'est en effet pas écrit. Celui qui entend mes coups, quand je frappe, en général, on dirait bien que s'il est écrit, voici je me tiens à la porte et que je frappe, alors nous penserions qu'il y a quelqu'un là-bas qui utilise sa main ou son poing pour frapper. Dieu ne frappe pas avec la main ni avec le poing, certainement pas. Il frappe par sa parole révélée. Je vous le lis, à savoir, par sa voix. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, vous voyez, alors comment frappe-t-il? Pardon? Comment frappe-t-il à la porte? Par sa sainte parole en ces jours-ci. Dieu nous a parlé. Il a révélé sa parole et sa volonté. Nous pouvons volontiers relire cela. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ce n'est pas mon point. Il n'est pas écrit si quelqu'un entend. Si quelqu'un m'entend frapper à la porte, non. Mais si quelqu'un entend ma voix, verset 20, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc nous voyons combien il est important d'écouter ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et l'Église et l'Esprit parle toujours à travers la parole qu'il révèle. Ainsi, lorsque Jean a vu le Seigneur exalté, marchant au milieu des sept chandeliers d'or. Il est écrit ici au verset 16, hein, « Dans sa main droite, il tenait sept étoiles, de sa bouche sortait une épée tranchante à double tranchant. » Ce qui importait ici, c'était que signifient les sept étoiles dans la main droite. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu, une épée à double tranchant, mais la question qui se posait ici était la suivante. Au verset 16, dans sa main droite, il tenait sept étoiles. Et puis au verset 20, quant au mystère des sept étoiles, premièrement, ces hommes n'ont pas été choisi par d'autres, ils n'étaient pas entre les mains des hommes. Ils ont été établis par le Seigneur lui-même pour l'Église tout entière, et c'est pourquoi il les tenait symboliquement dans sa main. Personne ne pouvait les diriger. C'est sa main droite qui est exaltée. Et c'est sa main droite qui remporte la victoire. Et il tient les sept étoiles dans sa main droite. Mais remarquez bien ceci. Je le dis pour la troisième fois. S'il est écrit, verset 20, en ce qui concerne le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite, ainsi que les sept chandeliers d'or, il n'y a en effet qu'une seule église. Alors, un seul chandelier aurait suffi. Il n'y a pas sept églises. Il n'y en a qu'une seule, à savoir l'église du Dieu vivant. Mais cette église unique traverse justement cette époque au cours de la période du Nouveau Testament. Et c'est là le grand mystère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est là le grand mystère. Je le répète pour la quatrième fois. S'il ne s'était agi que de cette assemblée locale, en quoi consisterait alors le grand mystère? Il n'existerait pas du tout, car tout aurait déjà été connu. Non, nous sommes ici très reconnaissants envers Dieu qui a justement révélé cette parole de manière si merveilleuse à notre bien-aimé frère Branham. Et je ne sais pas si c'est de notoriété publique, mais frère Branham avait en effet un tableau noir et il avait dessiné ces cercles ou les avait fait dessiner par sa fille Rebecca, comme il a dit un jour. Elle s'en sortait probablement mieux que lui dans le dessin sous sa direction, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, nous savons tout ce qui s'est passé tout à la fin, le dernier soir. La lumière surnaturelle, telle que nous la voyons là-bas dans le nuage, telle que nous la voyons dans la colonne de feu et de nuée sur l'image, sur la photo, est descendu de manière visible en présence de toute l'assemblée, s'est dirigé dans la réunion vers l'estrade et a commencé à retracer chaque cercle tel qu'il avait été dessiné auparavant. C'était une confirmation divine, surnaturelle, qu'il ne s'agissait pas ici d'un homme qui avait inventé quelque chose pour ensuite l'exposer, mais que le mystère des sept étoiles et des sept églises lui avait été révélé par une révélation divine. Et cela nous réjouit tout simplement, car nous croyons que Dieu, en cette époque, oui, spécialement en cette époque où nous vivons, bel et bien dans l'Apocalypse, Dieu a révélé également les choses qui y sont écrites. Il y a autre chose, et même quelque chose de tout à fait différent, dans Apocalypse 17, mais qui est également lié au mot mystère. Dans Apocalypse 17, nous lisons au verset 5, puis sans doute au verset 9. Apocalypse 17, verset 5. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. La grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Mais cette mère et cette prostituée étaient en même temps une femme. Et puis au verset suivant, il est écrit, verset 6, « Je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus saisi d'un grand étonnement. » Lisons maintenant le verset 9. Le verset 9. Il faut ici de l'intelligence unie à la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise, sur lesquelles la femme trône. J'ai dit tout à l'heure, même si certaines choses ont déjà été révélées par Dieu, elles ne sont pas comprises à moins que le Saint-Esprit ne les révèle à chacun de manière tout à fait personnelle. Nous pouvons aujourd'hui passer en revue les prédicateurs, les rangs des grands évangélistes, et si nous leur demandions ce que cela signifie ici, il y aurait différentes réponses données là comme ça, sans plus. Mais alors, nous sommes à nouveau reconnaissants de pouvoir dire que Dieu nous a révélé par la bouche de ceux qu'il a appelés en accord avec l'ensemble des Saintes Écritures, précisément ce mystère sur lequel le monde entier s'interroge, afin que nous ne vivions pas dans les ténèbres, mais que nous sachions par grâce de quoi il s'agit ici. Vous remarquez donc que les mystères peuvent avoir des natures différentes. Ils peuvent être directement liés au royaume de Dieu, ils peuvent être liés à la révélation de la volonté de Dieu et de l'Église, mais ils peuvent aussi être liés à la révélation de l'identité de celui qui exerce actuellement ce pouvoir mondial sur tous les rois de la terre. Il y a par exemple le dernier verset ici au chapitre 17, Apocalypse 17, verset 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la domination sur les rois de la terre. Et la personne n'a vraiment besoin de se creuser la tête ou de deviner. Tout le monde est au courant si cela leur a été révélé par la parole et l'esprit. Et laissez-moi continuer à lire brièvement et rapidement. Il s'agit en effet du fait que dans ces derniers jours, en tant qu'Église épouse du Seigneur, nous sommes appelés à sortir, à être préparés, à rejeter tous les enseignements qui ne sont pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu, afin de pouvoir ainsi devenir entièrement nouveau. Un homme nouveau. La promesse sur laquelle notre attention a été attirée à ce sujet, et ce, assez souvent, se trouve chez le prophète Malachie. En effet, dans la Bible allemande, nous avons 3 chapitres, alors que la plupart en comptent 4. Le 4e commence donc avec notre verset 19. Ici, dans Malachie 4, donc au verset 1. « Car, sachez bien, le jour vient brûlant comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent l'iniquité seront comme du chaume, et le jour qui vient les consumera. Ainsi a parlé le Seigneur des armées. De sorte qu'il ne restera de ni racine ni branche. Il y aura donc aussi des gens dont il ne restera absolument rien pour l'éternité, mais ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Le verset 5, Malachie 4, verset 5. Sachez le bien, je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Nous avons lu au verset 1, car vous, sachez bien, le jour viendra brûlant comme une fournaise. Et ensuite, on nous dit au verset 5, sachez bien, je vous enverrai le prophète Élie avant ce jour. Donc, je voudrais vraiment pouvoir dire quelque chose aujourd'hui. Quand j'entends parfois ce que les gens appellent un message, j'en ai la nausée. Quand il est dit ici, voici, je vous enverrai le prophète Élie. Qui était Élie et quel était son rôle? Quelle était sa tâche au sein du peuple de Dieu? Lisons ensemble 1 roi, chapitre 18, afin de comprendre en quoi consistait le ministère prophétique à la fin du temps de la grâce aujourd'hui. 1 roi, chapitre 18, verset 21. 1 roi, chapitre 18, verset 21. 1 roi 18, verset 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre les deux? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Attachez-vous à lui. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Le prophète Élie n'est pas venu avec des enseignements particuliers. Il est intervenu pour ramener le peuple de Dieu à Dieu le Seigneur. Il a reconstruit l'autel du Seigneur. Il a remis en état ce qui avait été détruit auparavant. Dans 1 Roi 18, verset 36, nous lisons, « Lorsque vint l'heure d'offrir l'holocauste, le prophète Élie s'avança et pria. » Auparavant, il avait fait ce que le Seigneur Dieu lui avait ordonné. Et maintenant, il adressait sa prière à Dieu dans les cieux, au service et dans le mandat et dans le ministère duquel et sous l'autorité duquel il se trouvait. Il était certain que Dieu l'avait destiné à cette tâche, lui avait confié cette mission et que Dieu lui-même le soutiendrait. Il était un collaborateur de Dieu. Il se laissait utiliser par le Seigneur. Et je le répète, non pas pour exposer de nouveaux enseignements fantaisistes, mais pour rétablir la parole originelle, le service divin, tout l'ordre divin au sein du peuple nouvellement converti, revenu à Dieu. Et c'est précisément cette tâche qui doit désormais être accomplie par le message divin. Et je vous apporterai demain un autre sermon dans lequel frère Branham dit en effet que ce n'est pas lui qui doit le faire, mais que c'est le message qui accomplira ce pourquoi Dieu a envoyé la parole. Et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur aura et ramènera à lui une église pure qui lui est consacrée, ramenée à l'ordre, à l'état divin, à l'ordre divin. Et c'est cette église qui reviendra prendre. Il est dit plus loin ici, dans 1 Roi 18, dans la dernière partie du verset 36, dans la prière, au verset 36, « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela selon ton ordre. » D'autres traductions disent ici, j'ai fait tout cela selon ta parole. Sa parole est en effet notre commandement, notre ordre, et son ordre est en effet sa parole. Et puis le verset 37, écoute-moi, exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que toi, Seigneur, tu es le vrai Dieu et que c'est toi-même qui a ramené leur cœur à la repentance. Nous connaissons tous la suite de l'histoire. Le feu est descendu du ciel après une prière si brève. Dieu, le Seigneur, a répondu. Je crois que l'heure vient où Dieu répondra. Et aussitôt après, la pluie de la rière saison tombera. Je vous lis à ce sujet un passage du même chapitre. 1 Roi, chapitre 18, verset 47. Gardez bien à l'esprit et dans votre cœur tout ce qui s'est passé. L'autel a été érigé, les 12 pierres, etc. Puis vint l'exaucement. Dieu répondit par le feu et confirma sa réponse de manière surnaturelle. Au verset 41, il est écrit ensuite. Verset 41. Alors Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car j'entends déjà le bruit de la pluie. Puis la pluie est tombée, la sécheresse a pris fin. Je crois ce que les Saintes Écritures nous annoncent, pas seulement qu'un Élie viendra et que nous ferons grand bruit autour de cet Élie. Il ne s'agit pas du tout d'Élie. Il s'agit de la destination divine de son ministère, à savoir le retour à Dieu de tout son peuple afin qu'il puisse répondre par le feu et ramener l'Église à sa position d'origine pour qu'il n'y ait plus parmi nous ni boiteux ni estropiés, comme c'était le cas parmi le peuple d'Israël lors de l'Exode. Comprenons-nous de quoi il s'agit? Quand j'entends des gens dire « le prophète » ou « Branham », je ne peux pas les suivre. Nous devons saisir la vocation divine, l'appel divin. Quand Dieu dit « Je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable du Seigneur vienne, à savoir le jour qui brûlera comme une fournaise », alors nous savons très bien que dès lors que le jour de la grâce et du salut sera terminé, ce jour du jugement de Dieu s'abattra. Et demain, nous consacrerons une étude biblique à ce sujet, comme vous n'en avez encore jamais vécu. La parole de notre Dieu est si merveilleuse. Vous verrez des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Mais voilà de quoi il s'agit maintenant. Il ne s'agit pas de faire tout un cirque autour d'un prophète particulier ou d'un messager, ni même de prononcer des paroles qu'on lui attribue à tort, qu'on interprète ou formule différemment, ou qu'on sort de leur contexte. Il ne s'agit vraiment pas de toutes ces choses-là. Il s'agit que tout le peuple de Dieu reconnaisse maintenant que nous sommes désormais arrivés à un tournant décisif de l'histoire et de l'histoire du salut, et que Dieu a envoyé parmi son peuple un homme du format d'Élie, non pas pour que nous lui érigions un monument et que nous lui apportions des fleurs à chaque fois, mais pour que nous accueillions en nous et recevons en nous le message divin issu de la parole, que nous soyons ramenés à la parole afin de pouvoir ainsi devenir une épouse parole, pour que Dieu puisse répondre par le feu encore aujourd'hui. Et tout comme Élie avait pris ses 12 pierres à l'époque, ces 12 pierres, c'est-à-dire l'enseignement des 12 apôtres, tel qu'il était au commencement, ont été reconstruites et remises en état grâce au message de la fin des temps. Quand il est écrit dans Actes des Apôtres 2, verset 42, et il persévérait et il demeurait dans l'enseignement des apôtres, cela s'applique aujourd'hui à nous, à la fin des temps, tout autant qu'aux gens de l'époque, au commencement. Donc, ainsi, la destination divine de ce dernier ministère puissant et de l'ensemble du message consiste bel et bien à être ramené en tant qu'Église tout entière du Dieu vivant, tout comme autrefois l'Israël tout entier vers le Seigneur, au Seigneur, vers notre Dieu, à notre Dieu, vers la parole, à la parole, à l'enseignement clair des Saintes Écritures, et non vers de vaines spéculations, mais véritablement vers la parole du Seigneur. J'ai vraiment choqué des gens à Lusaka. Il y en avait aussi un certain nombre qui pensaient que le Seigneur était déjà venu. Vous savez, quand un orateur invité vient, les gens affluent de toutes parts, et quand j'ai alors déclaré avec une certaine autorité divine, Apocalypse 10, versets 1 à 6, n'a pas encore commencé, n'a pas même encore été abordé, attend encore moins son accomplissement. Et vous pouvez bien imaginer ce qui se passe dans l'esprit de ces gens qui pensent que le Seigneur a déjà posé le pied sur la terre et la mer, etc. Mais Dieu intervient alors d'une manière tout à fait merveilleuse et aide, de sorte que l'autorité ne réside pas dans celui qui prêche, mais dans la parole de Dieu prêchée. Nous croyons en l'autorité divine de sa sainte parole. Et ainsi, nous disposons déjà de l'autorité divine, à savoir la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Encore deux ou trois passages bibliques, puis nous terminerons pour aujourd'hui. Nous voyons qu'après la descente du feu, après la réponse de Dieu, après que Dieu ait ramené de nouveau son peuple, le cœur de son peuple à lui, a pu ramener le cœur de son peuple à lui, ce même Élie a pu dire, « Levez-vous, j'entends déjà le bruissement de la pluie. » À ce moment-là, et vous pouvez me prendre au mot, à l'instant même où Dieu commencera à agir de manière surnaturelle, ce sera comme une réaction en chaîne jusqu'à la fin et cela ne s'arrêtera plus jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue et que nous vivions l'achèvement. En ce qui concerne la pluie et la bénédiction qui nous sont également promises pour la fin des temps, il existe également des passages bibliques correspondants dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, verset 23. Vous aussi, enfants de Sion, exultez et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie de l'avant-saison en quantité suffisante et vous et fera descendre sur vous la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, comme autrefois. Donc les deux, l'une avant les semailles, l'autre avant la moisson, tout comme la pluie de l'avant-saison est tombée au début de l'Église du Nouveau Testament, de même la pluie de l'arrière-saison tombera maintenant à la fin. Et tout comme les mêmes choses se sont produites au commencement, elles se produiront alors à la fin par la même puissance de Dieu. Et alors nous écrierons avec la plus grande joie, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Puis la parole bien connue de Zacharie, chapitre 10, verset 1. Zacharie, chapitre 10, verset 1. Demandez au Seigneur la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de l'avant-saison. C'est le Seigneur qui crée les nuages d'orage et leur donne des averses. C'est le Seigneur qui le fait. Donc, il faut donc prier à ces deux moments, au temps de la pluie, de l'avant-saison et aussi au temps de l'arrière-saison. Et nous ne prions pas en vain. Le prophète Élie pourrait aussi dire maintenant, 1 Roi 18, verset 44, « Je vois monter de la mer un nuage grand comme la main d'un homme. » Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? C'est ainsi que cela a commencé. Le ciel n'était pas tout de suite entièrement couvert. Le nuage se levait comme la main d'un homme. Peut-être était-ce la main tendue du Seigneur qui a fait naître ce nuage. Puis, qui a appelé à l'existence ce nuage. Puis, il y a encore le chapitre 3 des Actes des Apôtres, la parole sur le rafraîchissement, car tout cela va de pair. La pluie, la bénédiction, le rafraîchissement qui nous a été promis. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 19. « Répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés. » Verset 20. « Afin que viennent les temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et qu'il puisse envoyer Jésus, celui qu'il a désigné comme oint pour vous. » Verset 21. « Celui-ci doit toutefois être reçu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de tout. » doit être enlevé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé depuis les temps anciens par la bouche de ses saints prophètes. Voyez-vous? Nous avons en effet longuement parlé des mystères de la parole du royaume de Dieu, des mystères dans l'Apocalypse, du mystère de Dieu qui est le Christ et qui, comme cela a été laissé entendre, parviendra à son achèvement, à son accomplissement, notamment dans le verset lu, tiré d'Apocalypse 10, verset 7. Il n'y est en effet que suggéré que le mystère de Dieu aura alors trouvé son accomplissement. Dans Apocalypse 11, verset 15, nous voyons alors l'accomplissement. Au verset 15, « Alors le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes se firent entendre dans le ciel qui s'écriaient, « Le règne sur le monde est revenu à notre Seigneur et à son oint. Et il règnera en tant que roi pour toute l'éternité. » Vous remarquez que bien qu'il soit question ici de Seigneur et d'oint, ceux qui pensent au pluriel devraient alors poursuivre la lecture. Et ils régneront en tant que roi pour toute éternité. Il n'est pas écrit « ils régneront », mais « il régnera » au singulier. C'est lui le Seigneur, c'est lui loin, c'est lui le Sauveur. Ce sont différentes expressions qui sont nécessaires pour différentes fonctions. Prenons par exemple la lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12, verset 3. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur, si ce n'est que par le Saint-Esprit. Voyez-vous, cela doit être révélé à un homme par Dieu. Ce n'est qu'alors que nous le voyons et pas autrement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu accorde sa grâce afin que toutes ces choses qui ont été révélées par la parole prophétique et par le ministère prophétique par grâce soient révélées et transfiguré à chacun personnellement par ce même Saint-Esprit. Car c'est là que réside la grande difficulté. Lorsque des frères n'ont pas de révélation et ne sont pas dans le même esprit, ils ne comprennent pas ce qui a été exposé, mais ils donnent leur propre interprétation. Il faut être dans le même esprit, dans la même parole. Il faut simplement, comme on dit dans le langage courant, être sur la même longueur d'onde. Et alors, la révélation nous parvient à partir de la révélation. Alors, mystère après mystère nous est révélé. Non seulement tous les mystères de la parole et du royaume de Dieu, mais aussi le grand mystère de Dieu qui est le Christ, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors nous le reconnaissons par la révélation et nous remercions notre Dieu, notre Seigneur, de ce qu'il est venu à nous, afin que nous puissions venir à lui. De ce qu'il s'est fait homme, afin que nous puissions devenir de la race divine, comme il est écrit. Que cela s'adresse encore à tous ceux qui n'ont pas encore connu une conversion, qui n'ont pas encore connu et fait une expérience personnelle avec Dieu, que cela soit annoncé à tous. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même en pardonnant toutes nos transgressions, en ne nous imputant rien et en nous justifiant pleinement. J'ai lu cela aussi, le frère Branham dit, cela signifie que c'est comme si nous ne l'avions jamais fait. Nous sommes simplement tombés dans le piège, mais nous n'avions pas notre place là-dedans. C'est pourquoi nous en avons été retirés. Il nous a sortis de la boue, a posé nos pieds sur un terrain plus élevé, a eu pitié de nous et nous a accueillis. Heureux l'homme qui a fait une expérience avec Dieu, Heureux l'homme qui a établi cette communion avec lui qui a reçu cette communion avec lui par l'Esprit afin de pouvoir recevoir, voir et comprendre la parole révélée, les paraboles et les mystères exposés. Bref, toute la parole par révélation et d'en être transfiguré. Alors, nous sommes tous enseignés par Dieu. Et nul n'a besoin d'instruire autrui. Écoutez, je vais vous révéler un mystère. Paul a dit de nombreux mystères et nous pouvons dire par grâce tout ce qui lui a été révélé ainsi qu'aux autres apôtres nous a également été révélé par grâce. Que notre Seigneur soit loué et glorifié. La question ici n'est pas de savoir si un grand apôtre ou un prophète doit venir. La question est de savoir si le grand Dieu peut accomplir son dessein et sa volonté avec nous tous. Telle est la question. S'il peut avoir sa volonté et ses voies avec nous. Car Dieu veut accomplir des choses encore plus grandes que celles qu'il a déjà accomplies. Que son nom soit glorifié, soit loué et glorifié. Que son nom glorieux soit loué et glorifié. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur. Seigneur fidèle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, Créateur du ciel et de la terre, tu es notre Dieu. Tu vis. Tu es présent. Aujourd'hui, tu nous as montré en toute simplicité ce qui importe. Ce n'est pas la danse autour d'un grand prophète, ni les discussions sur ce qu'il a dit, mais le fait que nous, ton peuple, avons été ramenés vers toi, vers ta parole, vers tes voies, vers ton enseignement. Grand Dieu, tu as conduit nos cœurs à la conversion, à revenir à toi. Notre propre chemin touchait à sa fin. Désormais, nous marchons avec toi. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous ne connaissons d'autres vérités que toi, d'autres vies que toi, toi seul. Seigneur bien-aimé, nous voyons aujourd'hui avec des yeux oints ce qui importe. Ton autel est érigé. L'enseignement des apôtres a été proclamé comme un seul valable pour l'Église du Dieu vivant. Seigneur bien-aimé, qu'il arrive maintenant que les offrandes puissent être déposées sur l'autel afin que le feu descende et que la confirmation vienne. Oui, que la pluie se déverse sur nous tous, de sorte que nous devions nous écrier, « Dépêchez-vous, car j'entends déjà la pluie !» Seigneur bien-aimé, je te remercie pour la clarté de ta parole. Tu as envoyé un prophète à l'image d'Élie pour ramener les cœurs des enfants de Dieu vers celui des pères, pour tout mettre en ordre selon la Bible, pour tout remettre dans son juste état. Et Seigneur, tu continues à le faire jusqu'à ce que cela soit achevé. Ôte toute résistance de ton peuple. Rends-nous si unis en toi, ô Seigneur, que nous puissions nous laisser conduire réellement par ton esprit. Et cela selon ta parole précieuse et sainte. Merci. Merci, ô Seigneur. Également pour la méditation de ta parole ce soir. Le mystère des sept étoiles a lui aussi pris pour nous une nouvelle ampleur. Sept messagers, sept époques. Seigneur bien-aimé, nous vivons dans la dernière époque de l'Église, celle de Laodicée. Tout est tiède et paresseux. Mais ne nous rejette pas, Seigneur bien-aimé. Accorde-nous à nouveau le feu, car tu es le Dieu qui répond par le feu. Seigneur, c'est toi qui baptises d'esprit et de feu, adoration et gloire à ton nom merveilleux et saint. Alléluia. Amen.